France Inter.
Alors on entend, chaque fois que vous vous baissez, chaque fois que vous vous relevez, les vérins de l'exosquelette.
C'est ça qui s'actionne suivant les mouvements qu'on va faire en fait du coup. Quand la personne est venue avec l'exosquelette que je l'ai essayé, j'avais laissé un poids dans mon garage, à peu près 90 kilos. Je l'ai soulevé avec l'exosquelette, sans aucune douleur. J'ai regardé ma femme et puis je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai vu que là ma vie allait changer.
L'Homo sapiens va-t-il devenir un Homo machinus, un être humain de plus en plus assisté par les technologies qu'il développe? C'est la question qu'explore aujourd'hui Interception. D'un côté, il y a les avancées spectaculaires dans la santé. Des exosquelettes qui réparent des corps abîmés par l'effort physique, des implants qui atténuent les effets de la maladie de Parkinson, des électrodes intracrâniennes qui soignent la dépression ou des stimulateurs électriques qui rendent la marche à des victimes paralysées. Des progrès extraordinaires qui s'accélèrent avec l'intelligence artificielle. Mais derrière ces prouesses scientifiques pour réparer les vivants, il y a aussi ceux qui voient plus loin, qui promettent un super-humain aux capacités démultipliées, la vue, l'ouïe, la force physique, la conscience artificielle. Par exemple, le très médiatique Elon Musk avec Neuralink, qui a fait déjà jouer des singes à des jeux vidéo, ou Ray Kurzweil du géant Google, qui annonce l'ère de la singularité, quand l'homme et la machine auront fusionné, quand l'intelligence artificielle aura supplanté l'intelligence biologique. Alors, quelle société humaine se dessine ? Avec cette promesse d'un homme augmenté, les maladies seront-elles de simples pannes d'un corps réduit à sa fonction la plus basique ?
Quand une technologie existe, l'homme ne résiste pas. L'augmentation de la puissance de notre cerveau par cette hybridation homme-machine, par ces implants, cette intégration de l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle se payera d'un prix plus élevé encore, c'est-à-dire d'une augmentation de la fréquence des troubles psychiques.
Réparer, augmenter, l'humain est-il en train de muter ? C'est un reportage d'Antoine Gignot avec des artisans, des militaires, des scientifiques déjà plongés dans cette révolution. Première étape, la Ferté-sous-Jouarre, pour rencontrer Franck Mayer, atteint de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Sa vie a changé avec deux électrodes implantées dans son cerveau.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Donc on est sur la route entre la Ferté-sous-Jouarre et Montreuil-Lyon. Et les grands axes, j'ai tout tiré ici, entre les deux. La vie quotidienne au jour le jour, ce que vous êtes en train de faire là, d'aller me chercher aussi simplement, c'était pas jouable si on se replace en 2018 ?
Pas du tout, pas du tout. Pas du tout jouable parce que j'étais dans mon monde. C'est un peu une prison virtuelle un peu. Donc non, c'était pas faisable du tout. Tous les matins quand je me lève, je me dis quelle chance que j'ai de pouvoir vivre comme ça. Parce que j'ai tellement souffert de cette maladie que maintenant ça métamorphose. Franchement, c'est impensable, c'est impensable. On m'aurait dit ça en 2018, je l'aurais jamais cru. Je pensais que ça se serait amélioré, mais pas à ce point-là, pas à ce point-là.
Bonjour. Comment il s'appelle ?
Rafale. Et dis bonjour.
Voilà. Doucement.
Franck Mayer, j'ai 56 ans et j'habite à Montreuil-Lyon dans l'Aisne.
Au moment où vous décidez de faire cette opération, vous vivez quoi au jour le jour ? Vous vous levez, il se passe quoi ?
Je me lève, je suis dans mon monde, omnibulé par des obsessions. Il y a des compulsions. Par exemple, je me lève, je sais que je vais faire ma toilette. Bon, bah ça, moi, c'était rythmé d'une manière avec un rythme à avoir, une manière de s'y prendre.
Si c'est pas le même geste, ça va.
Ah, ça va pas, ça va pas. Ouais. Et ça, c'est un exemple. La toilette, c'est un exemple, mais ça va être pareil pour manger, ça va être pareil pour écrire, pour des choses comme ça. Ouais. Et ça vous met dans un état de stress que vous en transpirez. Vous êtes comme si vous étiez angoissé, mais à un point. Et c'est un enfer, hein, c'est un enfer.
Et ça démarre quand pour vous ? Vous avez quel âge quand ça démarre ?
Peut-être 11-12 ans. J'avais jamais rien connu d'autre, en gros, quoi. Que cette vie qui est un enfer, quoi. Ouais. J'ai été au début pris en soin à 20 ans dans une clinique psychiatrique À l'époque, les tocs étaient un peu flous quoi, pour eux. J'ai eu des électrochocs, des choses qui vous remuent pas possible, aucun effet. Des traitements pas possibles également, mais qui n'ont jamais eu l'effet. Et de là, après, j'ai été pris en charge par un psychiatre qui m'a suivi pendant quasiment 15 ans, qui a fait ce qu'il a pu. Alors, c'est vrai que ma maladie s'est aggravée à partir de 47-48 ans, j'avais. Et à un moment, donc, quand ça n'allait plus du tout, il s'est senti incapable d'aller plus loin. Quoi. Il dit ça me dépasse, je ne peux pas aller plus loin. Donc il m'a renvoyé à une autre psychiatre.
Et vous, quand on vous dit en fait, j'arrive plus rien à faire, vous êtes dans quel état?
Oh, bah, vous êtes au plus mal, hein, au plus mal, à tel point à penser presque au suicide. Hein, Et c'est vrai que l'opération, pour moi, c'était plus qu'une voie de secours, c'était un miracle. Ouais, ouais. Pour le ressentir un changement, ça a mis à peu près un mois et demi. Ça a été progressif. Le problème, c'est que c'est une maladie qui laisse des séquelles. Donc avant de revenir à une phase, je dirais, normale, comme on vient de dire, ça met quasiment 2-3 ans. Et là, il faut avoir, par exemple, on va pleurer, on va rire, on va des choses comme ça, des choses que j'arrivais plus à faire. Ça se réapprend, ça se réapprend. Et ça vous fait découvrir la vraie vie. Parce que malheureusement, vous n'êtes pas dans la vraie vie, quoi. Vous êtes vivant, mais pas dans la vraie vie, quoi.
Alors l'implant en lui-même, c'est ce qu'on voit. On voit que vous avez un petit renflement sur le bord de...
Il y a deux électrodes, là. Oui, il y a deux électrodes.
Côté droit, côté gauche.
Côté droit, côté gauche, ouais, voilà. Ouais. C'est deux électrodes qui rentrent dans le cerveau.
Qu'on précise aussi, c'est sous la peau, il n'y a rien qui
non,
sort
qui
à l'extérieur.
Il n'y a rien à l'extérieur, hein, y a rien à l'extérieur. Ça fait juste deux bosses. Après, ça fait un tunnel avec un câble qui passe au-dessus de la tête, mais toujours à l'intérieur, toujours. Ouais. Un câble qui descend dans le cou. Après, le câble passe dans l'abdomen. Et là, il y a un boîtier avec la batterie et puis le stimulateur dans le bas-ventre.
Qui est à l'intérieur aussi?
À l'intérieur aussi. Tout est à l'intérieur.
D'accord.
Et c'est rechargé tous les 8 jours. 8 jours avec induction, comme un smartphone. Et puis ça met à peu près 2h30 à charger. Puis là, c'est parfait, quoi. Là, c'est parfait, on va repartir comme un jeune homme.
Ça fait longtemps qu'on est mariés, hein. Ça fait 36 ans qu'on est mariés.
Et donc ça veut dire qu'au début, quand vous étiez mariés, il y avait déjà des tocs, mais pas aussi fort.
Mais pas aussi fort. Puis petit à petit, l'évolution, elle est devenue de plus en plus malade. J'ai essayé de l'aider.
Ah, oui.
Je suis toujours là, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Et maintenant, c'est vrai que c'est mieux.
Vous avez revécu aussi, du coup, vous?
Ah oui. Ouais. Maintenant, il y a les petits-enfants, maintenant.
Il y a les petits-enfants.
Ah oui, c'est super.
Ah oui, on a deux petits-enfants, là.
Que je profite pleinement. Et ce que j'ai pas pu faire avec mes enfants, je le fais avec mes petits-enfants. Donc, c'est enrichissant. Hein. C'est enrichissant.
Il y a une vraie révolution entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant.
Maintenant, c'est agréable parce qu'il fait pas mal de choses. Moi, je gérais tout. Là, maintenant, à deux, c'est plus facile.
Ah, c'est sûr, ouais. Vous parliez de vos enfants, mais ça a changé vos rapports avec tout le monde, en fait.
Oui, évidemment, avec mes enfants, énormément, avec ma femme, ma famille. Quand ça va beaucoup mieux, comme c'est mon cas, on découvre plein de choses. Hein, les sentiments, on va pleurer parce qu'il y a quelque chose, on va en rire. La naissance de ma petite fille, ça a été quasiment 3 mois après. Hein, 3 mois après, hein. Et là, j'ai pleuré. Des choses qui paraissent banales. Hein. Et puis la vie est de la saveur. Je n'ai pas d'ambition impossible. Profiter de mes petits-enfants, de ma femme, de mes animaux également. Et ça, c'est des choses, vous voyez, que j'aurais jamais profité avant. Ça ne m'aurait même pas venu à l'esprit. J'aurais jamais pu en profiter et m'en occuper. Contrairement maintenant.
L'artisan de ce changement s'appelle Philippe Domenech. C'est lui qui a réalisé l'opération. Il est à la tête à Paris de l'Institut de Neuromodulation, doté depuis les Assises de la Santé Mentale en 2001 de 20 millions d'euros et qui pilote 11 projets innovants.
Porte ouverte.
Bonjour, Antoine Gignot, France Inter.
Je suis le professeur Domenech, je dirige l'Institut de Neuromodulation au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences à Sainte-Anne. On a à peu près 70 patients pris en charge et traités. Donc avec un recul d'une vingtaine d'années maintenant, il y a un autre gros centre en France qui est Grenoble, qui ont également quelques dizaines de patients. On est dans cet endroit-là, il y a moins de 1000 patients traités comme ça pour l'instant dans le monde.
Qu'on le précise tout de suite, ça s'adresse à des patients qui n'ont pas pu être pris en charge par des moyens traditionnels.
C'est ça, en fait, le TOC, c'est le trouble obsessionnel compulsif, c'est une maladie qui est assez fréquente, hein, c'est 2% de la population, mais c'est une maladie qui est assez facilement sévère et résistante, ce qui fait qu'il y a facilement 20% de ces gens-là qui, malgré tous les traitements médicaux qu'on connaît, ne vont soit pas du tout répondre, soit répondre de manière tellement partielle que leur qualité de vie va rester extrêmement médiocre et bloquée par la maladie.
Si on parle de matériel, l'implant tel quel, il ressemble à quoi ? L'électrode fait quelle taille ? Et qu'est-ce qu'elle cible ?
Donc le matériel est très exactement le même que celui qu'on utilise dans la maladie de Parkinson pour en soins courants pour l'instant. Et donc en fait, vous voyez, c'est comme ça. Donc vous avez un stimulateur implanté, donc avec un boîtier en titane, des connecteurs pour les électrodes. Vous voyez, c'est tout petit, ça fait quoi ? Ça fait 7 cm dans sa grande hauteur sur 5-6 cm largeur, dans sa grande largeur. Les électrodes sont de l'ordre, ça fait un petit peu moins d'un millimètre. Hein, vous voyez, donc ça ressemble à ça, ça c'est une électrode.
Oui, on dirait une aiguille.
Ouais, donc ça c'est la partie qui va dans le cerveau. Et donc vous voyez, là les parties métalliques, ce sont les contacts par lesquels le courant électrique sort. Donc on peut ajuster en fait avec le réglage exactement là où on veut stimuler et comment on veut stimuler. Et en fait après c'est tout mou comme un spaghetti, vous voyez, parce que ça s'adapte complètement au mouvement du cerveau. Ce système, quand il est en place, il est conçu en fait pour durer 30 ans, 40 ans, vous voyez ce que je veux dire, toute la vie de quelqu'un.
Qu'est-ce qu'on envoie comme signal électrique ?
Alors, typiquement, ça se passe comme ça, donc vous voyez... En fait,
là, on est devant votre ordinateur.
Voilà, donc en fait, ce qu'on voit, c'est une reconstruction, hein, qui est une reconstruction informatique, où on a mélangé des IRM qui ont été faites avant l'opération... et un scanner qui a été fait après l'opération. La patate jaune ici, c'est le noyau qu'on vise dans le cerveau, et on choisit les zones qu'on va stimuler en fonction de ça, et puis en fonction aussi de tests fonctionnels qu'on fait pour calibrer un peu le système après l'opération.
Comment est-ce qu'on atteint une précision comme celle-là ?
L'insertion des électrodes se fait grâce à un robot qui du coup connaît la trajectoire à suivre, et en temps réel, il y a comme ce qu'on appelle un O-Arm 2, qui est un espèce de gros scanner dans la salle d'opération, qui en fait va balayer régulièrement la tête du patient pour savoir où est l'électrode par rapport à la tête du patient, par rapport à là où il doit être. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce genre de précision.
Le dysfonctionnement, on le voit où là ?
Sur cette représentation-là, donc en fait là vous avez les fréquences ici, là il y a le temps, là il y a le moment où les gens en fait ont une idée obsessionnelle, et vous voyez le rouge là c'est pour montrer que ça augmente.
Oui, on est sur un graphique voilà. Avec une mosaïque rouge, bleu.
En fait, dans le champ de recherche, on est en train de basculer vers une nouvelle génération de matériel où les stimulateurs écoutent le cerveau pour essayer de repérer des marqueurs neuraux de l'activité pathologique pour ne stimuler qu'à ces moments-là et de manière un petit peu stratégique, ce qu'on appelle de la stimulation adaptative. Donc ça repose sur des interfaces cerveau-machine et ce genre d'approche peut être généralisé à d'autres maladies.
Oscar, NASA numéro 1. Roger. Oscar, j'écoute. Je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture...
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident.
Raphaël Gaillard, je suis professeur de psychiatrie à Sainte-Anne et à l'Université Paris-Cité.
Qu'est-ce qu'on sait lire dans le cerveau ? Qu'est-ce qu'on arrive à décoder et qu'est-ce qu'on est en passe d'arriver à décoder, mais qu'on n'a pas encore réussi à comprendre ?
En fait, il y a une révolution qui s'est produite, c'est qu'on a pu accéder au cerveau. En enregistrant son activité, c'est l'essor de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. On a pu voir comment un cerveau fonctionne quand on a des émotions, quand on pense, quand on lit, quand on imagine un geste. Ça, ça a été une révolution parce qu'on a pu comprendre un certain nombre de fonctions cérébrales et on a pu aussi comprendre un certain nombre de pathologies qui affectent le cerveau. Mais on ne faisait que regarder avec l'imagerie. Si on est capable d'interagir avec le cerveau, par exemple avec du matériel implanté, des électrodes, on comprend beaucoup mieux ce qu'est la mécanique cérébrale avec ce type de dispositif. Mais quand je mets une électrode ou un ensemble d'électrodes à un endroit du cerveau, je n'accède au signal qu'à cette partie du cerveau. Je n'accède pas à l'ensemble du cerveau. Il n'y a pas de port USB dans le cerveau. Il n'y a pas un endroit où je puisse me connecter qui va me permettre d'accéder à l'ensemble du cerveau. Et donc, le fantasme, là, qui est très science-fiction, selon lequel, dès que je suis dans le cerveau, moi, je peux agir sur l'ensemble du cerveau, je peux influencer quelqu'un, modifier son comportement, tout ça, c'est de l'ordre de la science-fiction, comme d'ailleurs en sens inverse, je ne peux pas digitaliser son esprit comme si je pouvais aspirer toutes ses caractéristiques. Le cerveau, il faut le rappeler, c'est 85 milliards de neurones, c'est 1,4 kg de chair. Ces neurones établissent chacun 1000 à 10 000 connexions, donc c'est 1 000 000 000 000 000 de connexions. Si vous mettez un implant à un endroit donné, il ne mesure absolument pas l'activité à 20 cm de là, parce qu'il est séparé par des milliards de neurones qui chacun crépitent.
Ça nous amène sur un autre fantasme, celui de l'homme augmenté. Qu'est-ce qui se passe si on change une partie du cerveau au détriment des autres ?
Alors c'est très important de le dire de cette façon, parce que ces technologies, on sait très bien qu'elles peuvent servir non seulement à réparer, mais aussi à augmenter. Elon Musk, lui, son projet, il l'assume complètement, il l'a d'emblée dit, ça n'est pas de réparer, c'est ce qu'il fait à l'heure actuelle chez quelques patients, c'est d'augmenter. Mais si on augmente par ces technologies, eh bien on peut augmenter une fonction ou quelques fonctions, celles qui se trouvent à proximité des implants. Et donc, on n'augmente pas globalement le cerveau. Et ça, c'est très particulier parce que ça veut dire qu'on donne une hyper-compétence dans un champ donné. Je ne sais pas, on pourrait dire voir beaucoup mieux que les autres, entendre beaucoup mieux que les autres.
C'est techniquement faisable aujourd'hui ?
Je pense que c'est quasiment faisable aujourd'hui et demain, assurément. Et si on se donne cette capacité, eh bien, on n'augmente pas d'autres caractéristiques, on n'augmente pas la mémoire, on n'augmente pas la créativité, on n'augmente pas les capacités de planification. Or, ce que l'on crée avec ce type d'augmentation, ce sont des êtres pour lesquels il y a une forme de rupture de l'harmonie, puisque nous augmenterions une compétence et pas l'ensemble.
L'homme modifié de cette façon-là serait encore viable au niveau des fonctions cognitives du cerveau ?
Alors, oui, mais notre cerveau, il se trouve qu'il a déjà par moments des bugs. C'est ce dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles psychiques. Et ça nous permet de comprendre pourquoi ils sont si fréquents, pourquoi la population générale souffre pour 1% d'entre elles de schizophrénie, pour 2% d'entre elles de troubles bipolaires, ou une personne sur 5 connaîtra au cours de sa vie un épisode dépressif. Nous payons le prix de la puissance de notre cerveau. Il a des moments où il déraille, il dérive, il délire même. L'augmentation de la puissance de notre cerveau par cette hybridation homme-machine, par ces implants, cette intégration de l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, se payera d'un prix plus élevé encore, c'est-à-dire d'une augmentation de la fréquence des troubles psychiques.
Une augmentation vers laquelle on va quoi qu'il arrive pour vous ?
Alors moi, je ne crois pas du tout à la possibilité d'un ralentissement. Quand une technologie existe, l'homme ne résiste pas. Nous courons vers cette utilisation. Ça veut dire qu'une fraction d'entre nous, et on ne sait pas dire lesquels, ne supportera pas cette augmentation. Une fraction d'entre nous sortira de cette expérience comme des grands brûlés de l'augmentation.
Il y a un an, la flamme olympique parcourait la France. 12 000 km, 450 villes traversées, 10 000 relayeurs. Et parmi eux, Kevin Piette, paraplégique après un accident de moto, mais debout ce jour-là pour tenir la torche grâce à un exosquelette. Une machine développée par le français Van der Kraft qui vient de lever 75 millions d'euros, preuve que ce secteur explose. Antoine Gignot nous emmène maintenant à Station Debout, un centre de recherche au cœur de Paris, où la société Kouragi présente une combinaison connectée pour redonner la possibilité de marcher à ceux qui l'ont perdu.
Interception sur France Inter.
Donc là, je fais les connexions. Voilà. Hop. Et voici la tablette. Donc là, ce qu'on peut faire, on va calibrer les intensités. Donc je commence la calibration muscle par muscle, quadriceps bouche. Donc je vois le quadriceps qui se contracte très bien. Est-ce que c'est supportable ?
Oui, là c'est supportable.
Je peux aller plus haut ?
Oui, oui.
Relâchez-vous un tout petit peu. Voilà. Je peux voir un mouvement. Et ça, ça m'intéresse pour faire de la rééducation. Marouane El-Khoury.
Je suis un kiné spécialisé en rééducation neurologique. Donc là, le but, c'est d'envoyer des messages sensitifs, des messages qui arrivent déjà au cerveau à des régions qui sont déjà atteintes par la pathologie, et par la suite le cerveau il doit réagir d'une façon différente, intégrer ces informations là qui arrivent. Il va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Un autre muscle, le fibulaire, qui est juste à côté, qui a le rôle de faire l'inversion, c'est ça. Voilà.
Alors pendant qu'il règle, je vais vous demander juste de vous présenter, si vous voulez bien.
Alors je suis Jean-Baptiste Bertrand, donc j'ai 51 ans, donc une femme, deux enfants. Je suis consultant en informatique et financière dans les banques, et donc je suis atteint de sclérose en plaques depuis 1998.
Donc là vous avez enfilé ce qui ressemble à une sorte de legging avec une ceinture ventrale, la batterie sur le côté. Vous sentez quoi ?
Des picotements à l'intérieur. Donc au bout, quand c'est trop fort, ça picote un peu trop. Ça, c'est un peu douloureux.
Là, je vais vous demander de marcher 10 pas, comme vous marchez chez vous, le temps que les systèmes enregistrent la marche.
D'accord.
1, 2, 3. Donc là, ce que je fais, je change le temps de fibulaire. Voilà. On voit très bien que c'est corrigé là en bas.
C'est-à-dire que là, le pied se pose déjà plus à plat.
Ouais. C'est supportable. Je peux aller encore un peu plus haut sur le côté gauche.
Non, à gauche, non.
Ok, à droite.
À droite, vous pouvez un peu, oui.
D'accord. Je vais les mettre pareil, 67 mA, allez-y.
C'est tout le mouvement de la marche qui est décomposé, en fait.
C'est ça. On décompose le mouvement de la marche. On a une séquence d'activation qui correspond à chaque muscle.
Alors, je vais vous suivre en même temps.
Oui, bien sûr.
Vous me dites ce que vous ressentez physiquement.
Alors physiquement, je sens des contractions de mes muscles, en fait, comme on est censé le faire naturellement, mais qui dysfonctionnent un peu chez moi. Donc en fait, ça m'aide on va dire, terminer le mouvement. L'arrière du genou pour plier la jambe et la déplier, le quadriceps.
C'est-à-dire que ça vous accompagne ?
Ça, voilà, c'est ça. Ça m'accompagne dans le mouvement qui est un peu défectueux chez moi, dû notamment à la maladie.
Et ça, c'est quelque chose que vous avez perdu il y a combien de temps ?
Je sais pas, ça fait 5-6 ans que ma marche... je pense que j'ai dû la perdre parce que ma démarche, j'ai dû prendre les cannes, tout ça. Ça s'est altéré petit à petit...
Il y a beaucoup d'informations sensorielles qui remontent. Donc le cerveau, il était un peu perdu. Au fur et à mesure qu'on marche, la marche sera plus autonome, automatique.
Et bien là, c'est mieux. C'est mieux. À droite, c'est vrai que je ne pouvais plus du tout le monter, quoi. Et du coup, là, moi, je pense, je vais l'utiliser pour améliorer mon quotidien. Déjà, vous voyez, c'est quand même un peu minuscule pour ce que ça fait.
Oui, il y a une petite combinaison. C'est une double peau, quoi.
Exactement. Vous avez une double peau, mais bon, c'est pas très volumineux. Et du coup, dans le futur, on peut se dire que ça peut être intégré à votre pantalon. On est au début entre guillemets, d'un nouveau monde, même si c'est un grand mot.
Mais vous le voyez quand même comme ça ?
Ouais. Bah pour moi, en tout cas, à titre personnel, oui. Parce que c'est vrai que je vais sûrement pouvoir faire des choses que je ne pouvais plus faire.
C'est beaucoup mieux, là, la pose du pied.
Oui. C'est bien.
Soit le chantier, voilà. On va se garer juste derrière le camion. Bonjour.
Bonjour.
Hop. Et bah du coup, je m'appelle Gaëtan Musset. Ma profession, c'est artisan en maçonnerie, neuf et rénovation.
Vous êtes en train de sortir les pavés d'une ancienne allée, d'une ancienne cour ?
Exactement, pour justement faire des modifications d'entrée de maison.
Vous allez porter combien de kilos ?
De tonnes 5 dans l'heure. Là, c'est un chantier de entre 6 et 7 mois. Je travaille sur 10 chantiers dans le mois, en fait. Ça va faire en tout 19 ans que je suis à mon compte.
Et 19 ans avec des charges comme celle-là, quoi ?
Oui, tous les jours. Tous les jours, je travaille tout seul, donc du coup, c'est des gestes répétitifs, en fait.
Alors, on entend, chaque fois que vous vous baissez, chaque fois que vous vous relevez, les vérins... Ouais. De l'exosquelette.
C'est ça qui s'actionne suivant les mouvements qu'on va faire, en fait, du coup.
On a des sangles devant, comment c'est fait ? Comment vous le mettez aussi ?
En fait, on le met comme une ceinture orthopédique, en fait.
Il y a des scratchs devant ?
C'est ça, il y a des scratchs devant. Voilà, ensuite, c'est réglé sous une batterie. Donc la batterie, en fait, c'est l'autonomie de 8 heures. Ça charge en 1h30, 2 heures.
Alors qu'on finisse de la décrire, vous avez donc deux vérins de chaque côté.
Voilà, c'est ça.
Du dos, c'est ça.
Exactement. Qui permet justement de soulager les muscles, les vertèbres. Donc en fait, le dos se répare naturellement. Et le cartilage et le coussin en fait se reforment. Donc en fait, on guérit en fait.
Alors qu'on précise quand même, vous êtes loin d'être une demi-portion en termes de muscles et d'épaisseur. À quel moment est-ce qu'il faut justement recourir à la machine ?
Eh ben, en fait, j'allais arrêter ma société au mois de septembre de l'année dernière, tout simplement.
Vous avez quel âge ?
J'ai 42 ans. Donc il fait vieillir, j'avais les étassements L2, L3, L4, L5, L6, L7.
Les vertèbres ?
Recours à une chirurgie, le chirurgien m'a dit que même avec ça, il fallait que je change de métier.
Il n'y avait pas d'autre issue ?
Non, parce que même le chirurgien m'a dit qu'il fallait que je m'oriente sur quelque chose d'autre. Moi, je ne pouvais plus me lever le matin. Même en faisant des exercices, tout ça, je ne pouvais plus me lever, plus rien. Puis j'étais bloqué, j'étais de travers. Je marchais de travers, je marchais en crabe, et puis on aurait dit à un papy de 80 ou 90 ans qui sortait de son lit. Voilà, et j'allais bosser quand même comme ça, sauf que là j'étais le corps qui a dit stop. Je devais arrêter ma société au mois de septembre. Voilà, pour moi, j'avais tout perdu. Et du coup, j'ai regardé sur Internet. Et je suis tombé justement sur cet exosquelette. Donc du coup, j'y croyais sans y croire. Quand la personne est venue avec l'exosquelette que je l'ai essayé, au bout de 4 heures, je sentais pour mon dos. Déjà, j'avais enlevé la douleur qui était déjà pour moi énorme. J'avais laissé un poids dans mon garage, une carotteuse, une grosse carotteuse, à peu près 90 kilos à soulever. Quand je l'ai soulevé...
Vous l'avez soulevé déjà ?
Oui, je l'ai soulevé avec l'exosquelette, sans aucune douleur. J'ai regardé ma femme et puis je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai vu que là, ma vie allait changer. Que j'allais pouvoir continuer mon activité, que j'allais guérir. Et voilà quoi.
C'est vraiment un tournant quoi.
Oui, vraiment, vraiment. Les chirurgiens n'en parlent pas. Les médecins n'en parlent pas. Les kinés et ostéopathes, ils n'en parlent pas non plus. C'est pas connu. Je le conseille vraiment, vraiment, vraiment à tout le monde. Et même si on ne l'achète pas, au moins de l'essayer. Aujourd'hui là, je peux travailler sans mon exosquelette. Je le mets parce que c'est super important, parce que pour moi, il ne s'est pas encore guéri. Il faut attendre à peu près une bonne année que en fait, les muscles se régénèrent. Mais aujourd'hui, je suis plus cassé. J'ai plus mal, j'ai plus rien du tout. Et du coup, une fois que j'ai fait ma grosse journée de travail, quand je l'enlève, c'est comme si je n'avais pas travaillé.
Vous avez dit que tout le monde devrait l'essayer ou l'acheter. Il y a le prix,
oui,
qui est quand même conséquent.
12 000.
12 000 euros.
Oui. On le rentre... dans les charges, au bout de 3 mois, c'est remboursé, quoi. C'est rentré dans les charges. Il faut à peu près 15 jours à 1 mois d'adaptation. Et du coup, l'exosquelette va tout remettre droit. Et du coup, on a l'impression de marcher de travers ou qu'on soit décalé. En fait, on est juste remis à la bonne posture, en fait. Et au bout d'un mois, après, on le sait même plus qu'on l'a, en fait.
Ça se voit pas, hein. Moi, je vous ai face à moi. Ça a l'air d'aller, mais vous êtes comment dans votre vie, dans votre tête ?
J'ai 42 ans, c'est comme si j'en avais 20. Voilà. Ça a vraiment changé ma vie. Oui. Vraiment. Et des fois, j'en pleure encore. Les larmes qui remontent, là. Et...
Même là, vous êtes ému. Ouais.
Ah oui, 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 oui. Bah oui, j'allais arrêter ma société. Ah.
Étage 3.
Bonjour. Antoine Gignot, France Inter.
On arrive dans l'unité de production. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Je m'appelle Antoine Noël, je suis le dirigeant de Jappé.
Quand on dit exosquelette, dans l'imaginaire collectif, on pense tout de suite au gros robot qui englobe l'être humain. Tout autour de nous, on a des outils, évidemment, des établis, toute une série de ceintures alignées en face de nous, des dispositifs électroniques. On est dans l'unité de production et c'est relativement... Petit, elle fait quoi votre pièce aujourd'hui ?
Bon, elle fait à peu près 100 mètres carrés. Et je pense que c'est à peu près le seul endroit au monde où vous pouvez croiser des machines à coudre et des cartes électroniques, tout ça dans des dispositifs médicaux.
Comment est-ce que vous avez commencé à travailler sur cette solution-là ? Et combien de temps de recherche et développement il a fallu pour arriver au produit qu'on a sous les yeux ?
Alors effectivement, moi, les premiers exosquelettes que j'ai développés, c'était il y a 15 ans pour l'armée. Des grosses structures métalliques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on tape exosquelette sur une IA générative... tombe effectivement sur ces grosses structures. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne les utilise. Ça fait 15 ans que les premiers que j'ai développés, jamais personne ne les a utilisés. Parce que c'est contraignant. Et les seuls qui sont vraiment utilisés aujourd'hui, c'est des produits qui vont s'intégrer au quotidien. Donc il faut qu'ils soient confortables, compacts, qu'ils respirent aussi, et qu'ils ne gênent pas l'utilisateur dans son quotidien. Et donc ça, il y a une partie R&D, donc développement des moteurs, développement de la partie électronique qui prend du temps. Mais ce qui prend beaucoup de temps aussi, c'est travailler sur la compacité, l'acceptabilité. Et donc tout ça, ça se fait que ça prend à peu près 5 ans de recherche et développement.
Je m'appelle Mohamed Adalali. Là, actuellement, je suis en train de coudre une sangle avec une accroche rapide. Le fil, il est assez épais. Quand on fait des mouvements avec les quatre moteurs, il faut que les coutures soient assez solides.
On est encore un peu dans l'artisanat, là. Vous en produisez... vous en faites combien par jour, par exemple ?
Moi, par jour, on va dire entre 4 et 5 par jour. Du textile jusqu'au système électronique, tout est fait à la main. Parce que voilà, on a des micro-composants qu'ils n'apprécient pas forcément qu'on les touche. Du coup, on doit s'équiper d'un tapis USD.
C'est-à-dire USD, c'est quoi ?
Donc USD, c'est pour qu'on soit déchargé de toute électricité qu'on a en nous.
Alors, je reviens vers vous. D'un point de vue strictement technique sur les moteurs, les vérins, comment est-ce qu'on assure une coordination des différents moteurs pour avoir un soutien et un vérin qui va dans un sens, dans l'autre?
En fait, on intègre énormément de capteurs. Il y a près d'une trentaine de capteurs dans l'exosquelette qui fait que les moteurs vont s'adapter en permanence au mouvement de l'utilisateur.
Comment est-ce que vous avez vu le secteur évoluer, vous qui avez 15 ans de recul?
C'est un secteur qui, comme un peu tous les autres secteurs, a été drivé d'abord par le secteur militaire, le secteur très médical. Et cette application un peu plus quotidienne, donc dans le travail, elle est assez récente. Hein. Et effectivement, au début, notre ligne de production, c'était 10 mètres carrés. Aujourd'hui, on a à peu près 100 mètres carrés. Notre prochaine ligne de production, ce sera 1000 mètres carrés. On a réussi à lancer sur le marché cet exosquelette. Et là, on en a plusieurs autres qui devraient arriver.
On peut donner des exemples ?
Alors non. non, pour l'instant ça reste secret, mais ça reste dans la thématique de faire des exosquelettes qui sont intelligents et qui accompagnent les utilisateurs dans leur quotidien. C'est un secteur qui grandit d'à peu près 30-40% par an, ce qui est une croissance qui se voit dans peu de secteurs actuellement dans l'industrie.
À l'échelle de la France ou à l'échelle du monde ?
À l'échelle du monde, et la France est l'un des premiers marchés à l'échelle mondiale.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à horizon de 5, 10 20 ans.
Nous, notre vision de ce type de produit, c'est que ça doit être complètement intégré dans l'outil de travail et que ça doit être personnalisé, intégré dans la tenue. Par exemple, on pense aux soignants qui peuvent avoir une appréhension à ce qu'on voit l'exosquelette. Ça peut créer une frontière avec le patient.
Comment est-ce que vous voyez la place de l'humain à l'intérieur de ces solutions ? Est-ce que ça fait de nous des humains réparés ? Est-ce que ça fait de nous des humains augmentés, capables de faire plus ?
Alors, ce qui est intéressant dans les entreprises, c'est qu'il y a toujours cette notion de productivité. Et nous, on fait déjà quasiment de l'augmentation. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter que les gens soient trop fatigués. Et donc, ils fatiguent au long de la semaine. Ce qui est actuellement le cas. Donc, ça veut dire qu'on a des gens qui vont maintenir leur niveau de productivité avec l'exosquelette, là où chez les autres, ça va baisser. Donc, en fait, on fait un peu déjà de l'augmentation. Donc, en fait, la frontière, pour moi, elle n'existe pas concrètement. L'important, c'est surtout l'acceptation de ces produits et le bénéfice. Et c'est toujours ça qu'il faut avoir dans ces calculs.
S'il y a un milieu dans lequel les hommes s'exposent à un véritable danger, c'est bien le milieu de la défense. Pour traiter des milliards de données, de sources humaines ou technologiques, le renseignement militaire utilise déjà depuis longtemps les algorithmes et l'IA. Si les robots soldats relèvent surtout du fantasme, le soldat augmenté, lui, pointe le bout de son nez. Dans les cockpits des avions de chasse, des interfaces homme-machine assistent déjà les pilotes, traduisent aussi les communications. Direction maintenant le camp militaire de Souges, à côté de Bordeaux. Au salon des forces spéciales, notre reporter Antoine Gignot a testé les dernières innovations. Plongé d'abord dans l'obscurité d'une nuit noire, comme un soldat sur le front, avec des jumelles révolutionnaires qui offrent bien plus qu'une simple vision nocturne. Elles reproduisent tout ce qu'un œil humain capte normalement en plein jour.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour.
Bonjour Sandrine, donc je suis responsable de la ligne de produits Optronic. Donc là, vous avez été équipé avec la jumelle panoramique. On referme la porte pour que vous soyez totalement dans le noir. Voilà. Et là, on est dans des conditions de nuit.
Et là, on ne voit plus rien du tout. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin de bouger la tête. On peut bouger les yeux.
Vous avez un champ de 120 degrés qui vous permet de voir autour de vous comme si vous étiez de jour sans vos lunettes. C'est une image qui est reconstruite. Il y a les quatre tubes à intensification de lumière qui sont chacun associés à un ensemble d'optiques qui vont vous permettre d'intensifier, de récupérer chaque photon autour de vous, chaque élément de lumière qu'on reçoit. En extérieur, on va avoir à plusieurs centaines de mètres.
On est sur l'ajout presque d'une faculté supplémentaire.
C'est de l'augmentation des perceptions de l'être humain qui va être capable de voir la nuit aussi.
Vous avez ici 10 petits drones par antenne AFI, donc qui sont équipés d'une caméra infrarouge et d'un super zoom. Et derrière...
Alors le long des allées de ce salon des forces spéciales, il y a beaucoup de drones devenus essentiels dans les combats depuis la guerre en Ukraine. Et puis on trouve aussi des produits plus atypiques qui cherchent vraiment à augmenter les capacités humaines des soldats déployés sur le front.
Bonjour, je m'appelle Aymar Lamétri et je suis fondateur et président de Périphéral.
Périphéral qui est donc une solution que vous implantez à l'intérieur des masques ou des lunettes de vue des combattants. Ce qu'on perçoit là en arrivant devant, c'est un scintillement de minuscules petites diodes à l'intérieur.
Exactement, ce sont des LED qu'on met en vision périphérique, c'est-à-dire que le cerveau les voit mais on n'en a pas conscience. Et on fait scintiller ces LED en vision périphérique par des scintillements particuliers que le cerveau reconnaît. Et donc ça déclenche notre vigilance. C'est la première technologie qui parle au cerveau. Il vous est arrivé, j'imagine tous parfois, d'avoir une sollicitation telle que vous avez de manière instinctive tourné la tête extrêmement vite pour aller voir quelque chose. Par exemple, un enfant qui va se casser la gueule, tac, tout de suite. Eh bien, aujourd'hui, nous, on est capable de provoquer ça avec une fréquence lumineuse qui est très particulière. C'est le nombre de fois où elle s'allume, elle s'éteint par seconde, ainsi que les différences de couleurs. On travaille avec un laboratoire du CNRS, avec une société spécialisée aussi. On a étudié ça chez les chimpanzés. Donc on sait que ça fonctionne, qu'on est la première technologie qui utilise volontairement les neurosciences au profit des gens qui nous protègent.
C'est-à-dire que là, on fait appel à quelle partie du cerveau ?
Alors, de manière biologique, le cerveau, il y a différentes zones. Mais nous, on va faire appel aux parties sous-corticales, qu'on appelle les réseaux neuronaux sous-corticaux qui traitent les automatismes. C'est un peu comme l'équilibre. Dans les automatismes, il y a l'équilibre. C'est instantané, c'est automatique, on ne s'en aperçoit même pas.
On a la possibilité de communiquer quoi et de quelle façon ?
On communique des ordres simples. Arrêt, marche, arrêter de faire quelque chose, ou au contraire, se mettre en mouvement.
Donc là, en l'occurrence, si je regarde dedans pour me dire arrête-toi, qu'est-ce qui va se passer ?
Ben là, je vais faire un clignotement rouge accéléré, et en un quart de seconde, tu vas comprendre qu'il faut t'arrêter dans ton action.
Est-ce que ça veut dire que je vais intellectualiser le fait c'est rouge donc je m'arrête ?
Non, tu l'intellectualises pas. Tu sais qu'il faut t'arrêter. Le cerveau bascule du mode je réfléchis au mode inconscient qui dit en fait c'est par là-bas. Et donc pour la première fois, on communique, on dialogue avec notre deuxième cerveau automatique.
L'intérêt c'est d'aller plus vite ?
Alors, l'intérêt il est qu'aujourd'hui avec le stress qui augmente, on a du mal à réfléchir. Donc on est obligé de s'arrêter. Donc le premier intérêt c'est de ne pas s'arrêter. Deuxième intérêt, c'est comme c'est visuel, on est en silence. Et pour un soldat, le silence, c'est hyper important. Troisième intérêt, c'est comme c'est visuel. Les Anglais, les Français, les Espagnols, on peut tous travailler en même temps. Plus besoin d'apprendre la langue de l'un, de l'autre, c'est compliqué. Là, c'est extrêmement facile.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dedans qu'on passe au-delà de la conscience de ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait ? Et donc, derrière se cache évidemment la question de l'éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jusqu'où est-ce qu'on est conscient de l'action qu'on est en train d'entreprendre ?
On reste tout à fait conscient de ce que l'on fait. On sait juste que le point d'intérêt, il est là-bas. C'est un dialogue entre les deux cerveaux. Vous dites, non, là, je suis concentré. Je sais que tu me sollicites. Tiens, en une demi-seconde, vous lâchez votre attention. Ah, OK, c'est à gauche. Et là, vous revenez sur ce que vous faites.
Alors, quel intérêt pour les soldats ? C'est sûr qu'avoir un sixième sens, c'est un atout. Mais en même temps, il y a des difficultés liées à l'utilisation du matériel, et j'ai rendez-vous à l'extérieur avec Scoop, c'est son surnom, il protège son identité, c'est un ancien des forces spéciales, déployé notamment en Afghanistan.
Je suis Scoop, ancien opérateur de 2001 jusqu'en 2016, blessé fin 2010 sur l'Afghanistan lors de l'opération Black Smith Hammer, et voilà, j'ai 49 ans, deux enfants, et je travaille à l'heure actuelle au Moyen-Orient. On avait déjà, il faut prendre en compte les protections balistiques, l'armement, les munitions, ce qui représente à peu près déjà un poids de l'ordre d'une bonne vingtaine de kilos. Si on rajoute là-dessus du matériel additionnel comme les transmissions des jumelles d'observation de nuit, on se retrouve facilement avec 40 kilos sur le dos. Plus le matériel, entre guillemets, a une technologie avancée, plus on va avoir besoin d'avoir des accus qui nous permettent de durer sur une mission de 24 à 48 heures. Par exemple, en Afghanistan, on faisait énormément d'opérations de hit and run, c'est-à-dire avec un posé rapide, avec moyen héliporté, un assaut immédiat directement sur les baraquements. C'est aussi plus ou moins ce qui était fait sur le Sahel. Et dans ce cas-là, de toute façon, on évite d'emmener du matériel à très haute technologie. Voilà, c'est un allègement maximum, entre guillemets, du combattant. Puis de toute façon, il faut toujours mettre dans la balance, j'allais dire, la privation de sens du combattant amené par la technologie. À partir du moment où, à la manière, j'allais dire, d'un caméraman ou d'un photographe, si on est en train de regarder, par exemple, la recopie d'un drone sur un système...
C'est-à-dire l'image qu'envoie le drone.
L'image qu'envoie le drone, on n'a pas tous nos sens pour détecter justement notre environnement immédiat et on est coupé justement de l'action. On est en train de regarder un écran et voilà, c'est une technologie qui est très très bien, mais utilisée, j'allais dire, avec parcimonie.
Quand on a un répétiteur ou une recopie, ça ressemble à quoi ?
Mais en fait, c'est comme si on avait un petit rectangle qui correspond à un cell phone, j'allais dire, miniaturisé, qui est placé juste devant l'œil, comme si on avait un écran miniaturisé devant l'œil.
Il y a un risque qu'on n'arrive plus à faire sans la techno ?
Je pense. C'est ne serait-ce que si on prenait l'exemple issu du civil, maintenant, qui saurait naviguer, j'allais dire, dans une ville en orientant sa carte sans utiliser un GPS. Voilà, c'est devenu, entre guillemets, une habitude du quotidien. Et malheureusement, si ce type d'habitude est transposé au milieu militaire, malheureusement, on va perdre énormément de savoir-faire et on va se retrouver, in fine, lorsque malheureusement, il y aura une dégradation telle de la situation qu'on ne pourra plus utiliser la technologie, mais on sera à la merci, j'allais dire, de la situation.
Appel en cours.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
Antoine Gignot,
enchanté.
Merci de prendre le temps.
Oh ben, c'est...
Merci.
Jean-Michel Beignet, je suis professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et je m'intéresse depuis des décennies à l'impact des technologies sur la représentation de l'humain.
Est-ce qu'avec la démocratisation des exosquelettes, avec la multiplication des solutions techniques augmentées, on est en train de mécaniser l'homme?
Je crois qu'on est effectivement bien engagé sur la mécanisation de l'homme. Le cyborg fusionné avec des machines hyper performantes. Bon, cette idée-là est de plus en plus abordée de manière réaliste. On se dit qu'on doit pouvoir recourir à des prothèses, à des implants, à des dispositifs de toutes sortes qui nous permettraient d'interagir avec un environnement, et un environnement qui est lui-même de plus en plus technologisé. Plus nous technologisons notre environnement, plus nous mesurons à quel point l'humain doit trouver sa connexion, son couplage avec cet environnement. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il intègre lui-même ses adjuvants technologiques. Moi, je suis considéré comme un bioconservateur, sans doute à tort, mais parce que je répugne à la chose. Mais les technoprogressistes me disent, mais tu es forcément has-been, parce que de toute manière, l'intelligence artificielle va s'imposer. Bon, si tu n'as pas intégré tous les éléments qui te permettent de comprendre cette intelligence artificielle, alors tu es le chimpanzé du futur.
Vous écriviez il y a près de 15 ans, le transhumanisme dessine un avenir où le corps n'aura plus sa part. On y est ?
Oui, progressivement, on s'habitue à considérer que le corps, c'est la passivité en nous. On s'habitue à considérer que la maladie, c'est une panne. Hein, les transhumanistes n'y vont pas quatre chemins. Ils disent il faut se débarrasser de tous les éléments de corporéité que nous trimballons.
Oui, c'est le discours d'Elon Musk, notamment.
C'est le discours d'Elon Musk, de Ray Kurzweil, cet ingénieur de chez Google, qui annonce depuis maintenant plus d'une décennie que en 2045 interviendra ce qu'il appelle la singularité, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle aura pris le pouvoir sur l'intelligence biologique, hein, et nous serons dans une situation où soit nous aurons été préparés à interagir avec cette intelligence artificielle généralisée, soit nous ne l'avons pas fait et nous serons plus dans la course. Hein, il faut cesser de naître naturellement, il faut fabriquer l'humain, supprimer la souffrance avec les neurosciences, il faut supprimer la maladie avec des technologies de pointe comme les nanorobots circulant dans notre organisme et capables de repérer les tumeurs en formation pour les éradiquer. Puis il faut supprimer la mort, enfin c'est quand même aberrant que nous soyons encore contraints de mourir.
Qu'est-ce qui reste de la conscience de soi en tant qu'être humain, la réaction humaine?
Elle est inintéressante, à la limite. Dans un monde où domineront les automatismes et les machines, la réaction d'une subjectivité revendiquant son libre arbitre va devenir de plus en plus exotique.
Réparer, augmenter, l'humain est-il en train de muter? Un reportage d'Antoine Gignot, réalisation Gaëtan Colli, mixage Amandine Grévoz-Frichoux, attaché de production Martine Messonnier. Pour réécouter ce reportage et tous ceux du magazine Interception, abonnez-vous au podcast via l'application Radio France.